Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington, D.C.
So now we have a new victim to defeat, Lion Kamala Harris.
I know Donald Trump's type.
Le podcast des médias francophones publics.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
We'll stop Donald Trump's extreme abortion bans.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
And when we fight, we win. God bless you. God bless you.
Washington, D.C.
C'est toujours un moment très attendu dans une campagne présidentielle. Le premier et à ce jour le seul débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris s'est déroulé le mardi 10 septembre à Philadelphie, dans l'État-clé de Pennsylvanie. Il a duré un peu plus d'une heure et demie. L'enjeu était très important parce qu'on a bien vu en juin dernier, avec la désastreuse prestation de Joe Biden, qu'on peut tout perdre dans un duel de ce genre. On va en parler avec les correspondants des radios francophones publiques basées à Washington. Frédéric Arnoul de Radio-Canada, qui revient tout juste de Philadelphie. Il sort littéralement de sa voiture. Salut Frédéric.
Salut, salut.
Sonia Dridi de la RTBF, ça va ?
Ça va.
Et Sébastien Paour de France Info. En forme, Sébastien ?
Ouais, bienvenue dans cette émission.
Jordan Davis de la RTS est excusé pour cette fois. Il est loin, mais il reviendra. Je suis Guillaume Nodin de RFI et c'est Washington DC, saison 2, épisode 8.
Tonight, the high-stakes showdown here in Philadelphia between Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump. Their first face-to-face meeting in this presidential election. Their first face-to-face meeting ever.
Il y avait de l'enjeu à Philadelphie. L'enjeu pour Kamala Harris, c'était d'entrer dans le jeu, de se présenter dans un duel auquel elle n'avait jamais participé, ou du moins pas à ce niveau-là, et de ne pas s'effondrer comme Joe Biden. Elle a rassuré, et même mieux que ça, non ? Vous en avez pensé quoi, Sonia ?
Oui, moi je pense qu'elle a complètement rassuré ses électeurs, qu'elle a réussi l'exercice. En fait, c'est vrai que c'était vraiment la soirée de Kamala Harris, parce que Donald Trump, on sait qu'il a fait de nombreux débats, qu'il peut être bon. Et là, elle était attendue au tournant et je pense qu'elle a dépassé les attentes, même des électeurs démocrates. En tout cas, moi, j'étais avec des démocrates qui m'ont dit être encore plus confiants dans leur vote pour la candidate après ce débat. La presse américaine est unanime, même la presse républicaine. Hein, c'est Kamala Harris qui a remporté ce débat. Elle a vraiment réussi à placer Donald Trump sur la défensive, à le pousser dans ses retranchements et elle a aussi réussi à répondre ce à quoi elle voulait. C'est-à-dire que parfois, on lui posait des questions, elle répondait à côté de la plaque, mais au moins elle restait sur ce qu'elle avait bien appris. Elle était très studieuse.
Ces éléments de langage, Frédéric, toi, tu as pensé quoi de cette prestation, de cette soirée ?
Ben d'abord, c'est que Donald Trump est plus que jamais son pire ennemi. C'est-à-dire que c'est un homme qui est indiscipliné, qui ne s'est pas préparé et qui, en fait, on a vu ce que ça donnait. Il pensait qu'il était dans un de ses rassemblements. C'était pas ça du tout, en fait. Il n'avait pas les bonnes réponses, il n'avait pas l'attitude, il n'a jamais regardé, d'ailleurs, son adversaire. Ça donnait vraiment une image d'un homme qui reste dans sa bulle, qui pense que tout ce qu'il dit est vrai, alors qu'il y a eu des fabulations, mais incroyables, des histoires qui sortaient de nulle part, qui n'avaient ni queue ni tête, des migrants qui mangent des chiens, des animaux domestiques. En fait, ça allait dans tous les sens et il ne s'est vraiment pas aidé. Il devait essayer de ne pas en effrayer davantage de ces fameux électeurs indécis. Je suis pas sûr qu'il a réussi ça.
Sébastien.
Nous, on a l'habitude de le voir finalement, ce Trump-là, on le connaît, qui déblatère pendant une heure et demie, on en a fait tous, des meetings depuis 4 ans. Ici, donc tout ce qu'il dit, ses mensonges, ses enchaînements d'idées les unes sur les autres, ses façons de rebondir en accusant n'importe comment, comme tu viens de le rappeler, ça on le connaît, mais le grand public l'a découvert dans un meeting, le temps d'un meeting, avec en face, au lieu d'avoir son prompteur et d'être tout seul sur scène, un autre pupitre et cette femme qui effectivement d'entrée est allée le chercher en lui serrant la main, en le poussant dans ses retranchements, en lui demandant de revenir sur l'attaque du Capitole, en lui demandant de parler d'immigration, en lui demandant évidemment de parler d'avortement. Et donc, elle a été au final beaucoup plus efficace. Il fallait qu'elle parle d'elle. Elle l'a fait d'entrée. Je suis la seule ici à venir de la classe moyenne. Elle l'a dit, c'est sa première phrase dans le débat. Et après, il fallait qu'elle se montre présidentiable, potentiellement commandeuse, commander in chief, chef des armées, etc. Eh bien, elle est sortie de là. La presse le dit. Tu l'as rappelé, Sonia. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est présidentielle, Kamala Harris, après ça.
Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. C'est l'entrée en scène des deux candidats.
So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump.
Kamala Harris. What's up, good to be. Thank you.
Est-ce que Sonia, Kamala Harris, a mis Donald Trump sur la défensive juste en lui disant bonjour?
Oui, je crois que ça, c'est une séquence qui a été très appréciée, notamment des électeurs démocrates, parce qu'elle s'est, justement, comme tu disais, Sébastien, placée comme une possible commandeur en chef, c'est-à-dire que qui que ce soit en face d'elle, eh bien, elle respecte cette personne. Et j'étais il y a quelques heures sur le campus de Howard University, où Kamala Harris a étudié, et plusieurs étudiants m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié cette séquence, parce que tout de suite, elle s'est placée au-dessus de Donald Trump. Donc c'est une séquence importante.
Oui, c'est étonnant parce que, en fait, d'entrer juste en lui tendant la main, en allant derrière son pupitre à lui, elle l'a dominé quasiment physiquement, ouais. Hein, Frédéric.
Oui, mais encore une fois, le non-verbal était énorme dans tout ce qu'on a vu hier soir. C'est-à-dire, d'abord, il arrive comme elle lui tend la main. Donc déjà, cette image, c'est très fort, évidemment, pour les électeurs qui sont très divisés, très polarisés. Bon, elle commence comme ça, lui, il est déstabilisé. C'était le début de je pense d'une longue liste de ce qu'on appelle les mèmes de Madame Harris. Quand on regardait en fait l'écran partagé, le split screen, on voyait les deux. Mm-hmm. Et donc quand il disait des énormités, on la voyait, elle se prenait le menton comme ça, elle disait oh là là. Mais... Mm-hmm. Et tout ça va être utilisé évidemment sur Internet et les réseaux sociaux parce que ça représentait tellement un petit peu ce que beaucoup de gens pensaient en disant mais où s'en va cet homme-là avec de telle thématique avec de telles réponses. Et dans le fond, au début, on pensait que le fait que les micros étaient fermés, ça allait handicaper Madame Harris parce qu'elle ne pouvait pas interrompre et dire un peu ce qu'elle pensait par rapport aux mensonges. Mais en fait, elle n'en avait pas besoin. Tout était dans son visage.
Oui, le body language, le langage corporel, comme disent les Américains, Sébastien, oui. Il était très parlant.
Oui, ça part de cette poignée de main que vous avez rappelée. Et puis après, tout le débat est à l'avenant. Elle passe son temps pendant le débat à parler de lui en citant son prénom et son nom, Donald Trump. Et lui... Et en le regardant, très souvent, et en regardant aussi nous, les spectateurs, les millions d'Américains qui ont regardé ce débat, et lui, pendant ce temps-là, de son côté, est renfermé, ne la regarde quasi jamais, sauf un peu de traviole comme ça, en loose-dé, comme il fait, jamais franc, avec un peu le mépris du vieux, comme on le voit faire pendant ses meetings, et il dit toujours « she, 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 elle », il parle d'elle à la troisième personne. Il y a vraiment, comme tu l'as dit, ce split screen et ces deux manières de faire, ces deux body language.
Ça rappelle un peu le duel de 2016, quand Donald Trump avait suivi Hillary Clinton dans son espace, clairement pour l'intimider. Est-ce qu'il y avait un petit peu quelque chose de ça, Sonia?
Alors, la scène avec Donald Trump était, je pense, très, très marquante dans la politique américaine, mais aussi très étrange. Là, je pense qu'il y avait beaucoup moins cette... C'était plutôt le côté naturel, dominant, mais c'est vrai que cette scène Donald Trump était presque l'ombre d'Hillary Clinton, c'était plutôt à son désavantage, parce qu'on avait compris qu'il voulait, en quelque sorte, l'intimider, et c'est pour ça que le body language, comme tu dit est important, mais il y avait ce côté aussi un peu creepy, bizarre, étrange. Là, avec Kamala Harris, je pense que même les Républicains se sont dit, ils ont pris un step back, comme on dit, sont un peu revenus en arrière et ont dit, ah oui, quand même. Et j'aimerais juste finir sur le point, je pense qu'on attendait à ce que Kamala Harris connaisse bien ses fiches, connaisse ses dossiers, mais elle est aussi souvent critiquée pour manquer de naturel, pas être à l'aise. Et là, moi, où elle m'a surpris aussi, c'est que je l'ai parfois trouvée bonne lorsqu'elle a, en quelque sorte, vanné Donald Trump. Elle a vraiment eu des répliques, Poutine ne ferait qu'une bouchée de vous.
Vous mangerez à son déjeuner.
Vous mangerez à son déjeuner.
C'est l'être d'amour à Kim Jong-un.
Voilà.
80 millions d'électeurs vous ont viré. Oui. Enfin, il y a eu des bonnes punchlines.
Oui, il y a eu des bonnes punchlines. Et moi, je l'ai regardé le débat avec des Républicains et j'ai senti des fois les réactions genre « wow », ils avaient presque envie de l'applaudir. Quoi.
Ouais. Les premières flèches dans le débat, c'était sur l'économie. Kamala Harris, elle a déroulé les quelques propositions qu'elle a déjà présentées. Il n'y en a pas tellement, finalement, qui sont d'ailleurs pas tellement chiffrées ou financées. Donald Trump lui a reproché l'inflation. Alors, chacun défend ses positions. C'est encore relativement courtois, mais au bout de 10 minutes, Kamala Harris se met à parler des rassemblements et des discours de Donald Trump. Écoutez ce qu'elle dit.
Je vais faire quelque chose de très inhabituel. Je vais inviter des gens à assister à l'un des meetings de Donald Trump, car c'est vraiment intéressant à regarder. Vous verrez au cours de ces meetings comment il parle de personnages fictifs comme Hannibal Lecter. Vous verrez comment il parle des moulins à vent qui causent le cancer. Vous remarquerez également que les gens commencent à quitter ces meetings plus tôt que prévu, par épuisement et par ennui. Et je vous dirai que la seule chose chose dont vous ne l'entendrez pas parler, c'est de vous. Vous ne l'entendrez pas parler de vos rêves, de vos ambitions, de vos désirs. Et je vous dirai que je crois que vous méritez un président qui vous fera réellement passer en premier. Et je vous promets que je le ferai.
Et c'est là que Donald Trump commence vraiment à se fâcher.
Elle a dit que les gens commencent à partir de mes meetings, mais personne ne va à ces meetings à elle. Il n'y a aucune raison d'y aller. Et si les gens y vont quand même, elle les dirige, elle les paye pour être là. Et après, elle les montre sous un autre jour. Donc, elle peut parler de ces gens, mais personne ne quitte mes meetings. Nous avons les plus grands et les plus incroyables meetings de l'histoire. C'est parce que les gens veulent reprendre le contrôle de leur pays.
Là, Frédéric Arnould, on sent qu'elle a clairement touché un point sensible.
Ben, en fait, c'est ça, c'est ma foule est plus grosse que la tienne. Et donc là, ça c'est vraiment venu le chercher particulièrement. Il y a toujours eu un grand problème avec tout ce qui est taille, Monsieur Trump. Vous vous rappelez-vous ? Non, mais rappelons je parle des foules, évidemment. Mais en 2016, rappelez-vous, là, il y avait beaucoup moins de monde que lors de l'investiture de Barack Obama. Et il disait à chaque fois, mais non, regardez, c'est la plus grande foule qu'on a jamais vue, point à la ligne, etc. Donc, encore une fois, Mme Harris a réussi à être le petit poil à gratter dans le dos de Trump en se disant, oui, mais attendez, là, vous allez voir, là, je vais le provoquer. Et ça a marché. Et alors, il a mordu à l'hameçon. Et à partir de ce moment-là, il a perdu le fil de toutes ses attaques. Il n'avait plus de structure, aucune discipline. Déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Mais là, c'était complètement... Il était en roue libre et ça a vraiment détruit toute sa prestation au cours de ces 90 minutes.
Elle est rentrée dans sa tête. C'est exactement ça qui s'est passé.
Elle a fait du Trump, en fait. C'est-à-dire qu'elle a dit n'importe quoi. Elle a repris à son compte des trucs que lui pourrait dire. Mmh. Et lui s'est fait avoir et il est parti sur ces animaux de compagnie qu'on mange à Springfield dans l'Ohio, que les migrants haïtiens qui sont entrés par milliers par la frontière mexicaine à cause de Biden, évidemment, et d'elle, puisqu'ils bossent ensemble depuis 3 ans et demi, viennent manger dans cette ville. Il est parti, il est tombé dans le piège. Et puis après, comme tu dis, il a déroulé comme en meeting, quoi.
Ouais. Sonia, pendant tout le débat, Donald Trump, il a parlé d'immigration. Il a essayé de toujours tout ramener à ça. Et l'un de ses sujets de prédilection, c'est un dossier sur lequel les Républicains se sentent forts. Et il n'a pas été si convaincant que ça, finalement, parce qu'il a été dans l'outrance complète.
Oui, et c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des Républicains qui parlent d'opportunités manquées. D'ailleurs, Lindsey Graham, grand allié de Donald Trump, juste après le débat, veut aller dans la spin room pour dire que c'est un désastre. Alors, il a rejeté la faute sur l'équipe qui a conseillé Donald Trump. Mais beaucoup ont parlé d'opportunités manquées parce que Donald Trump avait un avantage sur l'immigration. Et selon les sondages, les électeurs américains font plus confiance aux Républicains sur ce dossier. Mais pareil, au lieu d'énoncer des points forts en détaillant son plan, il s'est épanché sur ses accusations mensongères concernant des migrants qui mangeraient des animaux de compagnie dans l'Ohio.
Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes d'entrer. Regardez ce qui se passe partout. À Springfield, ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux domestiques.
Donc, c'est aussi vraiment une occasion manquée pour Donald Trump. Alors oui, il a réussi à faire peur à certains Américains en disant qu'avec Kamala Harris, si elle était présidente, ce serait la troisième guerre mondiale.
Il le répète à chaque discours quasiment.
Voilà. Ça, bon, mais ça marche avec certains.
Et pas forcément devant des millions de téléspectateurs. Donc là, sûr. Peut-être ça a pu les surprendre un petit peu.
Oui, mais il y a beaucoup d'Américains chez qui ce discours marche. Et je l'ai vu hier avec les Républicains avec lesquels j'ai regardé le débat. Mais il aurait pu faire mieux sur l'immigration, sur l'économie, parce qu'il était déstabilisé, il a fait beaucoup moins bien que ce à quoi même ses conseillers s'attendaient.
Ouais, tout y est passé, avortement, 6 janvier, les condamnations pénales de Donald Trump, les relations internationales, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, c'est quoi le moment qui vous a le plus surpris, qui vous a le plus marqué, Frédéric ?
Je sais pas si c'est celui qui m'a le plus marqué, mais je trouvais le moment intéressant lorsque Donald Trump disait bon, Kamala Harris, c'est Biden, c'est la même chose, c'est la même équipe, et est sorti en disant, ben, vous savez, je ne suis pas Biden, et je ne sais pas s'il est au courant, mais ce n'est pas contre Biden qu'il se bat, c'est contre moi maintenant. Un peu pour le faire passer comme le gars, oh, il a eu un petit paix au cerveau, là, ça ne marche plus du tout. Donc c'est une occasion pour elle de montrer, dans le fond, c'est plus la même donne, là, c'est moi maintenant contre toi. Là.
Ouais, outre l'immigration, c'était vraiment l'un des points essentiels de l'argumentaire de Donald Trump, c'était dire Biden et Harris, c'est bonnet blanc, et blanc bonnet, et à un moment, elle lui a dit, bon, Non, c'est pas la même chose.
Oui, elle lui a dit, je ne suis pas Joe Biden et je ne suis certainement pas encore moins Donald Trump, elle a précisé. Et d'ailleurs, vous ne vous présentez pas face à Joe Biden, hein, c'est contre moi. Elle lui a dit, je tiens à rappeler ça, monsieur le président. Elle s'est adressée à lui en parlant à Donald Trump. Attention, je ne suis pas Biden, vous êtes candidat contre moi. Moi, le moment où on l'attendait beaucoup, parce que c'est son dossier de prédilection, c'est sur l'avortement, et je l'ai trouvé très bonne sur l'avortement. Lui, pareil, il est parti dans des délires complets où les démocrates, depuis que le droit fédéral à l'avortement a été annulé par la Cour suprême, pourrait tuer des enfants à 7, 8, 9 mois de grossesse, voire même, pourquoi pas, après la naissance. Elle est arrivée sur ce terrain avec une phrase que moi j'ai retenue, que j'ai trouvée assez efficace, qui résume pas mal sa pensée. C'est sûrement pas un gouvernement, et encore moins Donald Trump, qui doit décider de ce que font les femmes de leur corps. J'ai trouvé que là, elle marquait des points, et une fois de plus, on n'a pas eu la position très claire de Trump sur ce sujet, m'a-t-il semblé.
Sonia, ton moment clé de ce débat ?
Alors moi j'ai trouvé, parce que tu parlais d'international, qu'elle a été très bonne lorsqu'elle lui a dit qu'il était la risée des dirigeants internationaux, parce qu'on a senti qu'il était personnellement vexé. D'ailleurs il s'est vite rattrapé en disant bon, je suis quand même copain avec Viktor Orban, le premier ministre hongrois.
Toujours son ami.
Voilà, donc j'ai trouvé qu'elle a réussi l'embarrasser.
Les dirigeants étrangers se moquent de lui.
Leaders are laughing at Donald Trump. Moi j'ai trouvé que plusieurs fois Donald Trump, on a senti qu'il était embarrassé et qu'il se rattrapait comme il pouvait.
Et alors, on est tous d'accord qu'elle a plutôt gagné le débat. Hein. On est d'accord, d'ailleurs, entre nous, on est d'accord avec la plupart des journalistes et des commentateurs qui ont parlé de ce débat. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflagration, de déflagration comme du précédent débat contre Joe Biden avec Donald Trump. Personne ne s'est effondré complètement au cours de ce débat. Frédéric.
Non, mais il reste quand même que Donald Trump est un peu comme un vieux boxeur qui est dans les cordes, là, qui a eu quelques uppercuts et qui n'est pas en très très bonne position. Donc non, c'est vrai, il faut dire que la barre était quand même assez haute lorsque Biden a été atomisé en 90 minutes au mois de juin dernier. On a l'impression que c'était l'année passée, mais c'était il y a pas longtemps, il y a quelques semaines de ça. Donc ça paraît une éternité en politique. Mais il reste qu'il y a quand même un travail qui a été fait de façon sérieuse par Kamala Harris pour essayer de le poussé dans ses retranchements. Ça a fonctionné. Après ça, on verra évidemment quel est l'impact. Mais quand même, il y avait une mission quand même réussie là-dessus.
Ouais. Est-ce que finalement, le fait que la quasi-totalité des médias, la totalité, y compris ceux de droite comme Fox News, pense que Kamala Harris a été meilleure, est-ce que ça, finalement, Donald Trump ne va pas essayer de s'en servir pour dire « Ils sont tous contre moi !» C'est sa stratégie populiste. Il va s'en servir comme ça, Sonia ?
Ah bah oui, parce que de toute façon, il dit déjà que le débat était truqué en faveur de Kamala Harris. Il accuse ABC donc d'avoir triché.
Ah oui, bah, la faute des journalistes,
la
évidemment.
La faute des journalistes. Moi, ce que je trouve super, c'est qu'il voulait 3-4 débats. Maintenant, Kamala Harris, à peine sortie du débat, propose un autre débat en octobre. Il dit « Finalement, je pense que j'ai tellement bien fait que j'ai pas besoin d'un autre débat. » Donc, c'est du Trump tout craché. On voit qu'il est vexé, qu'il est frustré. Il s'en est même pris à la pauvre Taylor Swift qui, selon lui, parce qu'elle a apporté son soutien à Kamala Harris...
Juste dans la foulée du débat. Ouais.
Juste dans la foulée du débat, ce qui est vraiment une victoire pour le camp démocrate, parce qu'elle aurait pu ne pas se prononcer. On s'attendait à ce qu'elle ne soutienne pas les Républicains. Mais avec plus de 200 millions de followers, c'est vraiment pas négligeable.
Il s'en prend à elle
en disant que finalement, ça allait lui avoir des répercussions sur le marché. Donc on voit qu'il est vexé, et ça je pense que c'est la victoire de Kamala Harris, avoir réussi vexer Donald Trump. Et pour terminer, c'est aussi parce qu'il n'était pas préparé. De Donald Trump, juste avant le débat, n'était pas de dire « Oh, j'ai pas besoin de me préparer », comme dit Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on prenne le premier coup dans la figure. Eh bien, elle était très préparée, il n'était pas très bien préparé, ça s'est vu.
À l'inverse, on voit que Harris avait magnifiquement préparé ce débat. Moi, je l'ai trouvé super efficace. On sait qu'elle a répété dans une réplique du studio du débat, au sous-sol de l'hôtel où elle était à Philadelphie. On sait que Philip Rains, ancien conseiller de Clinton, a joué le rôle de Trump, qui s'est déguisé en Trump avec la même cravate, le même costard, qui avait le même éclairage, etc., les mêmes mimiques. Il a regardé des discours de Trump. Il a exactement agi comme lui. Et résultat, quand Kamala Harris, on l'en a parlé, dès qu'elle rentre sur le plateau, elle lui serre la main, il est déstabilisé dans les phrases, dans les formules et tout. Et ça s'est exactement passé comme elle l'avait bossé. Et on voit qu'effectivement, entre l'une qui a beaucoup travaillé et l'autre qui se vante de ne jamais préparer les débats, eh bien voilà le résultat, elle est largement devant. Maintenant, l'élection n'est pas faite. Clinton avait aussi gagné tous ses débats, largement les trois débats de 2016, et elle a fini par perdre l'élection.
Ouais, savoir qui a gagné le débat, c'est une chose, et c'est un jeu qui fait plaisir aux journalistes, notamment. Hein, mais ce qui compte, c'est pas de gagner ou de perdre le débat, mais plutôt de gagner ou de perdre les élections. Et les électeurs dans tout ça, est-ce que ce qu'on a vu peut en faire changer d'avis certains, Frédéric ?
Ben, je pense qu'on va rester quand même dans ces marges d'erreur de sondage. Parce que qu'est-ce qu'on a retenu dans le fond de ce fameux débat ? Bon, on a beaucoup parlé des chiens qui se font manger, etc. Mais qu'est-ce qu'on retient dans le fond des positions de Kamala Harris ? Et là, j'ai peut-être un petit bémol en disant c'est vrai qu'elle était bien préparée, etc. Mais je pense que ceux qui voulaient écouter ce débat pour en savoir plus sur son programme, sur ses priorités, ils sont restés sur leur faim. Et il y avait quand même des points à marquer. Elle en a peut-être convaincu certains. Elle a raffermi probablement l'enthousiasme chez les démocrates. Mmh. Peut-être aller chercher 2-3 indépendants à droite et à gauche. Mais il y en a encore beaucoup qui se disent mais je ne sais pas. Ou même des républicains modérés, on va les appeler comme ça, les républicains Nikki Haley, entre guillemets. Mais je pense que là-dessus, il y a encore un travail à faire. Et s'il n'y a plus de débat, il va falloir qu'elle le fasse, qu'elle expose ses fameuses priorités à travers des points de presse, pas juste dans ces bulles démocrates avec les partisans. Donc là, il y a quand même un travail à faire et il reste une cinquantaine de jours, c'est pas beaucoup.
C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième débat.
Ouais, peut-être, parce que elle a quelques propositions économiques qu'elle a faites et comme je le disais au début de l'enregistrement, il n'y a pas grand-chose derrière.
C'est pas très épais encore.
Et des deux côtés, il n'y a pas beaucoup de détails.
De l'autre côté, c'était... Comment il a dit ? I have a concept of a plan, c'est ça ? J'ai l'idée d'un plan, alors que...
Très bonne punchline. Voilà.
Je ne suis pas
président.
Le but, c'était d'élargir la base électorale. Clairement, Donald Trump, après ce débat, je ne pense pas, a élargi sa base électorale, alors que Kamala Harris, même si, évidemment, elle n'a pas... Ce n'est pas ce débat qui va la faire gagner l'élection, elle a quand même réussi à convaincre des indécis. Il y a plusieurs sondages. Quand on parle même avec des électeurs, certains nous le disent. Donc, elle a marqué des points. Elle va avoir le vent en poupe pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais évidemment, tout peut arriver, notamment la surprise d'octobre, comme c'est souvent la tradition.
Parce qu'il faut rappeler aussi que ce n'est pas tout le monde qui a regardé le débat. Hein. Les gens étaient intéressés, mais il y en a beaucoup qui n'ont vu que des petits morceaux, comme ça, des petits extraits qui ne représentent peut-être pas forcément la teneur de ce débat. Alors, c'est sûr que cet impact de débat-là, on va devoir attendre les prochains jours et les prochaines semaines, voir s'il y a une tendance durable là-dessus au niveau des sondages. Mais il y a du travail.
En tout cas, c'est une campagne. Il ne fallait pas qu'elle se rate. On était tous sur le débat de Biden qui avait été une catastrophe. Les démocrates étaient effondrés. Voilà, elle a passé le test. Il ne fallait pas rater ce soir-là. Elle ne l'a pas raté. Maintenant, comme tu dis, il faut qu'on en sache plus sur... pas tant qui elle est, mais quel est son programme. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudra d'autres débats ou qu'en tout cas, il y a d'autres meetings, évidemment.
Est-ce que l'élément de langage là, qu'on voit un peu partout de la part des démocrates depuis quelques jours, où ils sortent les plus mauvais sondages pour demander de l'argent à leurs supporters en disant « We are the underdog », nous sommes les négligés, comme on dit au Québec,
les données perdants.
Les données perdants, enfin, on n'est pas les favoris. Est-ce que ça peut encore marcher après ce débat-là ?
Moi, je pense que c'est sa ligne depuis le début. En gros, ce que je comprends dans ce côté, on est les outsiders. Attention, même si les sondages nous disent qu'on est un tout petit peu devant, ça reste dans la marge d'erreur. Attention, c'est pas gagné. Et souvenez-vous, moi, je pense qu'elle a en tête, souvenez-vous Clinton, que tout le monde donnait imbattable ou en tout cas, les écarts étaient plus importants avec Trump. Attention à pas répéter les erreurs de 2016. Je crois que c'est ça, moi, qui a derrière sa communication. Non
et à pousser les gens à aller voter parce que il y a tout un tas d'électeurs désillusionnés qui vont la trouver pas mal, mais qui auront peut-être autre chose à faire le jour des élections. D'ailleurs, ils poussent les démocrates à commencer à voter dès la semaine prochaine avec les élections anticipées. Donc vraiment, là, et on voit vraiment le changement de langage par rapport, en effet, à lorsque Clinton était candidate, c'est vraiment dire ce n'est pas gagné, il faut se mobiliser. Aller chercher vos voisins, vos amis, vos collègues, mais pousser à la mobilisation.
Oui, et puis aussi, il faut quand même rappeler que c'est toujours très bizarre le système électoral aux États-Unis, mais si on regarde la carte, les rouges et les bleus, c'est toujours la même chose, à part ces fameux 5, 6, 7 États clés. Comme le...
Il y a 85% des États qui sont déjà décidés quasiment.
Oui, c'est ça. Donc, mais tout se joue dans ces États-là, et c'est pour ça que le travail de terrain est énorme. Et c'est pas parce que vous avez le plus grand coffre rempli de millions de dollars que vous allez forcément gagner. Il y a une façon d'atteindre ces fameux électeurs-là qui sont décis qu'il faut séduire, mais parce que, et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc il faut y aller avec des arguments très forts, et donc c'est là-dessus que ça va se gagner cette élection, encore une fois, c'est le terrain, c'est la campagne.
Faut mettre mettre des petits points bleus partout dans les campagnes rouges, c'est-à-dire les villes bleues et les campagnes rouges républicaines. Il faut que l'équipe Harris, que Walz, ils sont d'ailleurs avec son mari Duke Emhoff aussi à Kamala Harris, tous sur le terrain encore en ce moment, là où l'on parle.
Ouais, comme tu nous le disais, il y a une ou deux éditions de ce podcast, Frédéric, Campaign Matters.
Campaign Exactement. Matters.
Il y a un match, il faut le jouer et il faut le gagner. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut aller chercher les électeurs avec les dents, comme disait un ancien président français.
L'important, c'est les trois points.
Ouais. Eh bien, on va suivre ça et on va essayer d'accélérer la cadence, d'ailleurs, en essayant de se retrouver à peu près toutes les deux semaines. Jordan Davis sera revenu. On est impatients de tout ça. À la prochaine. Salut.
Arrivederci.
Bye.
Bye.
Washington, D.C. Le podcast des médias francophones publics. RTBF, Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI.